Chapitre 17. À l'arrière de la tartane, le soleil sur le point de se coucher étendait une bande d'un rouge cramoisi entre le ciel couvert et la mer assombrie. La presqu'île de Gien et les îles d'Hier ne formaient qu'une seule masse qui se détachait toute noire sur la ceinture enflammée de l'horizon. Mais vers le nord, la chaîne des Alpilles allongeait à perte de vue sa ligne sinueuse sous des nuages bas. La tartane semblait se précipiter en même temps que les vagues dans la profondeur de la nuit tombante. À un peu plus d'un mille sous le vent, l'Amélia, toute voile pleine, menait la chasse à fond. Elle durait déjà depuis plusieurs heures, car Pérol, en prenant le large, avait dès le début réussi à gagner de l'avance sur l'Amélia. Tant qu'elle fut sur cette nappe d'eau calme de la rade d'Hier, la tartane, qui était vraiment un bâtiment très rapide, réussit positivement à gagner du terrain sur la corvette. Puis, en filant tout à coup la passe qui séparait les deux dernières îles du groupe à l'est, Pérol avait disparu à la vue du navire qui le poursuivait et dont il fut masqué un moment par l'île du Levant. L'Amélia, ayant dû virer de bord à deux reprises pour la suivre, perdit encore du terrain. En débouchant en pleine mer, elle eut à virer de bord encore une fois, ce qui l'amena à donner chasse droit par l'arrière, position qui prolonge le temps de la chasse comme chacun sait. L'habileté de Pérol avait arraché par deux fois au capitaine Vincent un murmure d'étonnement qu'accompagna un significatif serrement de lèvres. L'Amélia avait été un moment assez près de la tartane pour lui envoyer un coup de semonce. Il fut suivi d'un autre qui passa en sifflant tout près du mât, mais le capitaine Vincent fit amarrer de nouveau la pièce. Il dit au premier lieutenant, qui, le porte-voix à la main, se tenait près de lui, « Il ne faut à aucun prix couler ce bâtiment. Il y a un fin manœuvrier sur cette tartane. Il prend le large maintenant, mais à tout moment il peut encore danser dans le vent. Ne le suivons pas de trop près, nous perdrions notre avantage. Cet homme a résolu de nous échapper. » Si ces mots avaient pu par miracle parvenir aux oreilles de Pérol, il lui aurait fait venir aux lèvres un sourire ironique de satisfaction triomphante. Depuis le moment où il avait posé la main sur la barre de la tartane, toute son ingéniosité et son habileté de marin s'étaient évertuées à tromper le commandant du navire anglais, l'ennemi qu'il n'avait jamais vu, l'homme dont il s'était imaginé l'esprit d'après la manœuvre de son navire. Courbé sur la lourde barre, il rompit le silence de cet épuisant après-midi en interpellant Michel. « C'est le moment, » dit-il avec calme, de sa voix profonde. « Choque l'écoute de grand voile, Michel, un tout petit peu seulement. » Quand Michel eut repris sa place sous le vent, Pérol remarqua qu'il gardait ses yeux fixés sur lui avec étonnement. Des pensées vagues s'étaient formées lentement, incomplètement, dans le cerveau de Michel. Pérol répondit à la visible innocence de cette question muette par un sourire qui, d'abord sardonique, prit bientôt sur sa bouche mâle et sensible une expression qui ressemblait à de la tendresse. « C'est comme ça, camarade, » dit-il avec une force et un accent particulier, comme s'il y avait dans ses mots une réponse pleine et suffisante. Fort étrangement, les yeux ronds et généralement fixes de Michel clignotèrent comme s'ils étaient éblouis. Il tira lui aussi des profondeurs de son être un sourire bizarre et vague qui fit se détourner Pérol. « Où est le citoyen ? » demanda-t-il en se penchant tout à fait sur la barre et en regardant vers l'avant. « Il n'est pas passé par-dessus bord, j'imagine. Il me semble que je ne l'ai pas vu depuis que nous avons doublé la pointe près du château de Porquerolles. » Michel, tendant le cou pour regarder au-dessus du bord du pont, déclara que ses volas étaient assis sur la carlingue. « Va sur l'avant, » dit Pérol, et choque un peu l'écoute de misaine. « Cette tartane a des ailes, » ajouta-t-il à part lui. Seul sur le gaillard d'arrière, Pérol tourna la tête pour regarder l'Amélia. Le navire qui tenait le vent croisait maintenant obliquement le sillage de la tartane. En même temps, il avait réduit sa distance. Pérol estimait pourtant que s'il avait vraiment voulu lui échapper, il avait 8 chances sur 10 d'y réussir. C'était le succès assuré. Il contemplait depuis un moment déjà la haute pyramide de toile dressée contre la bande rouge qui pâlissait à l'horizon, quand un gémissement lamentable le fit se retourner. C'était ses volas. Le citoyen avait pris le parti de marcher à 4 pattes, et comme Pérol le regardait, il roula sous le vent, faillit presque passer par-dessus bord, et s'accrochant désespérément à un taquet, son autre main tendue comme s'il avait fait une découverte étonnante, cria d'une voix rauque « La terre ! La terre !»« Certainement, » dit Pérolle, tout en naviguant avec soin. « Et puis après ?»«
Je n'ai pas envie d'être noyé !» s'écria le citoyen de cette même voix rauque.
Pérolle réfléchit un moment avant de lui répondre d'un ton grave « Si vous restez où vous êtes, je vous assure que vous... » Ici, il jeta par-dessus son épaule un rapide regard vers l'Amélia. « Ne mourrez pas noyé. » Il secoua la tête. « Je connais les idées de cet homme. »«
Quel homme ? Quelles idées ?»
hurla Cévola avec une impatience et un égarement extrême. « Il n'y a que nous trois à bord. » Mais Pérolle, dans son esprit, contemplait la silhouette d'un homme avec de longues dents, une perruque et de grosses boucles à ses souliers. Telle était l'idée qu'il se faisait du capitaine de l'Amélia. Cet officier, dont le visage naturellement aimable était alors empreint d'une expression grave et résolue, avait appelé d'un signe son premier lieutenant. « Nous le rattrapons, » dit-il avec calme. « J'ai l'intention de le serrer de près en restant au vent. Je ne veux pas m'exposer à un de ses tours. On bat difficilement un Français pour la manœuvre, vous le savez. Faites monter quelques soldats sur le gaillard d'avant. Je crains que le seul moyen de s'emparer de cette tartane ne soit de mettre hors de combat les hommes qui la montent. Je voudrais bien en trouver un autre. Quand nous serons à portée, faites tirer un feu de salve en visant bien. Mettez aussi quelques soldats à l'arrière. J'espère que nous pourrons faire sauter ces drisses. Une fois les voiles sur le pont, nous l'aurons rien qu'en mettant une embarcation dehors. » Pendant plus d'une demi-heure, le capitaine Vincent demeura silencieux, accoudé sur la lisse, sans cesser de regarder la tartane, tandis qu'à bord de celle-ci, Pérolle, silencieux et attentif, naviguait, sentant derrière lui le navire ennemi, acharné à son infatigable poursuite. Ce n'est que lorsque la corvette fut à une bonne portée de fusil de la tartane que Pérolle se décida à ouvrir la bouche. « Non !» s'écria-t-il en criant dans le vent, comme s'il se soulageait d'une longue et anxieuse méditation. « Non, je ne pouvais pas te laisser derrière moi, sans même la compagnie d'un chien. Je ne crois pas, le diable m'emporte, que tu m'en aurais su gré. Qu'en dis-tu, Michel ?» Un sourire à demi ahuri restait fixé sur le visage innocent de l'ancien pêcheur. Il répondit, comme il l'avait toujours fait à toutes les remarques de Pérolle, « Je pense que vous avez raison, maître. »« Eh bien, écoute, Michel, ce navire va nous aborder d'ici moins d'une demi-heure. » En approchant, ils vont ouvrir sur nous un feu de salve. « Ils vont ouvrir sur nous ?» répéta Michel avec un air de profond intérêt. « Mais comment savez-vous ce qu'ils vont faire, maître ?»«
Parce que le capitaine de la corvette est obligé d'obéir à ce que j'ai dans la tête, » déclara Pérolle d'un ton de conviction absolue et solennelle.
« Il le fera aussi sûrement que si j'étais à côté de lui pour le lui dire. Il le fera parce que c'est un marin de premier ordre, mais moi, Michel, je suis un tout petit peu plus malin que lui. » Un instant, il regarda par-dessus son épaule l'Amélia lancée à la poursuite de la tartane, les voiles gonflées, puis élevant tout à coup la voix. « Il le fera parce qu'à un demi-mille en avant de nous est l'endroit où Pérolle doit mourir. » Michel ne tressaillit même pas. Il se contenta de fermer les yeux un moment, et l'ancien frère de la côte reprit à voix plus basse. « Il se peut que je sois frappé tout de suite en plein cœur, » dit-il. « Auquel cas, je te permets d'amener les drisses si tu es toi-même en vie. Mais si je vis, j'entends bien mettre la barre dessous. Quand tu me verras le faire, tu laisseras aller la voile de misaine pour aider la tartane à prendre le vent. C'est mon dernier ordre. Maintenant, va sur l'avant et ne crains rien. Adieu. » Michel obéit sans rien dire. Une demi-douzaine des soldats de l'Amélia se tenaient rangés sur le gaillard d'avant, les mousquets tout près. Le capitaine Vincent vint jusqu'au milieu du pont surveiller la chasse. Quand il jugea que le bout dehors de l'Amélia était dans l'axe arrière de la tartane, il agita son chapeau et les soldats déchargèrent leurs mousquets. Apparemment, aucune drisse n'avait été coupée. Le capitaine Vincent remarqua que l'homme à tête blanche qui tenait la barre portait la main à son côté gauche, tout en poussant la barre sous le vent et en amenant rapidement la tartane. Les soldats placés à la poupe tirèrent à leur tour. On n'entendit qu'un seul coup. Des voix sur le pont crièrent que l'homme à cheveux blancs était touché. Le capitaine dit au second « Parez à virer !» L'homme mûr qui était le second de l'Amélia
jeta d'abord un coup d'œil avant de donner les ordres. Et l'Amélia arrêta sa poursuite, tandis que sur le pont retentissaient les sifflets des seconds maîtres de manœuvre et le commandement rauque à carguer les voiles, par à virer. Pérol, étendu sur le dos, au-dessous de la barre affolée, entendit les commandements s'échanger, puis se dissiper. Il entendit la poussée sinistre de la vague qui précédait l'Amélia, lorsque celle-ci ne fut plus qu'à 10 mètres de la tartane. Il vit même ses vergues lui arriver dessus, puis tout disparut sous le ciel obscurci. Il n'y eut plus dans ses oreilles que le bruit du vent, le ressac des vagues battant contre le petit bâtiment privé de direction, et le battement régulier de sa misaine dont Michel avait largué la voile conformément à ses ordres. La tartane se mit à rouler pesamment, mais le bras droit de Pérol était intact, et il le passa autour d'un corps mort pour éviter d'être bousculé. Un sentiment de paix qui n'était pas sans orgueil vint l'envahir. Tout ce qu'il avait prévu était arrivé. Il avait voulu jouer un tour à cet homme, et maintenant le tour était joué. La tête de Pérol roula sur le côté gauche. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était les jambes du citoyen Cévola qui suivaient le roulis de la tartane, comme s'il eût eu le corps coincé quelque part. Était-il mort, ou seulement mort de peur? Et Michel, était-il mort ou mourant, cet homme dépourvu d'amis que, par pitié, il avait refusé de laisser derrière lui, seul sur la terre, sans même la compagnie d'un chien? Pérol ne se sentait à cet égard aucun remords, mais il pensait qu'il aurait voulu voir Michel une fois encore. Il essaya de prononcer son nom, mais rien ne sortit de sa gorge, pas même un murmure. Il se sentait emporté loin de ce monde, des bruits humains, où Arlette lui avait crié « Pérol, n'avez-vous pas honte ?» Il n'entendrait plus jamais le son d'une voix humaine. Sous ce ciel gris, il n'y avait pour lui que le ressac de l'eau et le battement incessant et furieux de la misaine. Cette tartane, qui avait été son jouet, s'agitait sous lui terriblement, le gouvernail affolé allait et venait juste au-dessus de sa tête, et des paquets de mer embarquaient par-dessus son corps étendu. Tout à coup, dans une embardée désespérée qui mit toute la Méditerranée avec un grondement féroce au niveau de la pente du petit pont, Pérol vit l'Amélia venir droit sur la tartane. La peur, non pas de la mort, mais de l'insuccès, étreignit son cœur défaillant. Est-ce que cet Anglais aveugle allait lui passer dessus et couler les dépêches avec le bâtiment? Dans un effort désespéré, un retour de sa force, Pérol s'assit et passa le bras autour du hauban du grand mât. L'Amélia, que son élan avait entraînée d'un quart de mille au-delà de la tartane, avant qu'on pût réduire la voilure et brasser les vergues, revint prendre possession de sa prise. Dans l'obscurité qui s'était accrue, et au milieu des vagues écumantes, on eut du mal à découvrir le petit bâtiment. Au moment même où l'officier de manœuvre du vaisseau de guerre, promenant anxieusement son regard du haut du gaillard d'avant, pensait que la tartane avait dû se remplir et couler par le fond, il l'aperçut qui roulait en travers de la lame, et si près qu'elle semblait toucher le bâton de foc de l'Amélia. Le cœur faillit lui manquer. « Tribord, toutes » hurla-t-il, et l'ordre fut transmis d'un bout à l'autre de la corvette. Pérol, retombant sur le pont dans une autre embardée pesante de la tartane, vit un instant toute la forme de la corvette anglaise se balancer dans les nuages comme si elle allait se jeter sur sa poitrine. Des embruns lui balayaient furieusement le visage. Un moment de calme suivit, un silence des eaux. Il vit dans un éclair les jours de sa jeunesse, ses jours de force et d'aventure. Et soudain, une voix énorme, pareille au rugissement d'un phoque en colère, sembla remplir tout le ciel vide d'un cri puissant de commandement « Steady !» Et tandis que ce mot anglais qui lui était familier résonnait à ses oreilles, Pérol sourit à ses visions et mourut. L'Amélia, ayant amené ses phoques et mis en panne, se balançait doucement, tandis que sur sa hanche, la tartane de Pérol allait et venait comme un cadavre sur l'eau. Le capitaine Vincent, appuyé selon son habitude contre la lisse, restait les yeux fixés sur sa prise. M. Bolt, qui l'avait fait demander, attendit patiemment que son commandant se retournât. « Ah, vous êtes ici, Monsieur Bolt. Je vous ai envoyé chercher pour que vous preniez possession du bâtiment. Vous parlez français, et il y a peut-être encore quelqu'un de vivant à bord. Dans ce cas, bien entendu, vous me l'enverrez immédiatement. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui ne soit blessé. Il fera en tout cas trop noir pour y voir, mais regardez un peu partout et prenez-moi tous les papiers sur lesquels vous pourrez mettre la main. J'ai l'intention de la prendre en remorque et de la faire fouiller de fond en comble demain matin. Défaites-moi au besoin les rembourrages de la cabine et autre chose du même genre au cas où vous ne trouveriez pas tout de suite ce que j'espère. » Le capitaine Vincent, dont les dents blanches étincelaient dans l'ombre, donna encore quelques ordres à voix basse et M. Bolt s'éloigna rapidement. Une demi-heure plus tard, il était revenu à bord et l'Amélia, avec la tartane en remorque, faisait voile vers l'est à la recherche de la flotte de blocus. M. Bolt, introduit dans une cabine fort bien éclairée par une lampe suspendue au plafond, tendit à travers la table à son commandant un paquet enveloppé de toile à voile, ficelé et cacheté, et un morceau de papier plié en quatre qui semblait, expliqua-t-il, être le certificat du navire, mais qui, étrangement, ne portait aucun nom. Le capitaine Vincent s'empara aussitôt du paquet de toile grise. « Cela m'a tout l'air d'être ça, Bolt, » dit-il tout en retournant la chose entre ses mains. « Qu'avez-vous trouvé d'autre à bord ?» Bolt lui dit qu'il avait trouvé trois hommes morts, deux sur le gaillard d'arrière, et le troisième gisant au fond de la cale et tenant encore dans sa main le bout de la voile de misaine. « Tué, je suppose, juste au moment où il la larguait, » ajouta-t-il. Il décrivit l'aspect des corps et rapporta qu'il avait fait ce dont on l'avait chargé. Dans la cabine de la tartane, il avait trouvé une petite dame Jeanne de vin et un morceau de pain dans un coffre. Et, sur le plancher, une valise contenant un manteau d'officier et un vêtement de rechange. Il avait allumé la lampe et avait vu que le linge était marqué à « E. Réal ». Une épée d'officier suspendue à un large ceinturon se trouvait aussi sur le plancher. Ces objets ne pouvaient avoir appartenu à ce vieil homme à cheveux blancs qui était de forte corpulence. « Je crois que quelqu'un a dû passer par-dessus bord, » remarqua Bolt. « Il était difficile d'identifier deux des cadavres, mais il était hors de doute que ce beau vieillard était un marin. « Pour sûr, » dit le capitaine Vincent, « c'en était un. Savez-vous, Bolt, qu'il a presque réussi à nous échapper ? 20 minutes de plus, et il y parvenait. Combien de blessures avait-il ? 3, je crois, commandant. Je n'ai pas regardé très attentivement, » dit Bolt. « Je ne pouvais supporter l'idée de tuer comme des chiens des gens aussi braves, » reprit le capitaine Vincent. « Mais, que voulez-vous, je n'avais pas le choix. Il peut y avoir là, » continua-t-il en frappant de la main le paquet cacheté, « de quoi me justifier à mes propres yeux. Je vous remercie. » Quand le capitaine Vincent se présenta à bord du Victory, il était trop tard pour qu'on l'invitât à partager le déjeuner de l'amiral. Il apprit que Lord Nelson n'était pas encore monté sur le pont depuis le matin, et on vint lui dire qu'il désirait voir le capitaine Vincent immédiatement dans sa cabine. Une fois introduit, le capitaine de l'Amélia, en petite tenue, l'épée au côté et le chapeau sous le bras, reçut un accueil aimable. Après avoir salué l'amiral et lui avoir fourni quelques explications, il posa le paquet cacheté sur une grande table ronde auprès de laquelle se tenait assis un silencieux secrétaire vêtu de noir qui venait évidemment de prendre des lettres sous la dictée de Lord Nelson. L'amiral marchait de long en large et, après avoir salué le capitaine Vincent, il se remit à marcher comme un homme nerveux. Sa manche vide n'était pas encore épinglée sur sa poitrine et ballottait légèrement chaque fois qu'il se retournait. Ses boucles clairsemées tombaient le long de ses joues pâles, et tout son visage avait au repos une expression de souffrance avec laquelle le feu de son œil unique faisait un contraste frappant. Il s'arrêta brusquement et s'écria, cependant que le capitaine Vincent s'inclinait dans une attitude respectueuse, « Une tartane ! Vous avez pris cela à bord d'une tartane. Mais comment diable êtes-vous tombé sur celle-là parmi la centaine de tartanes que vous devez voir tous les mois ?» « Je dois avouer que j'ai obtenu par hasard un renseignement, » répondit le capitaine Vincent. « Tout a été une affaire de chance. » Tandis que le secrétaire éventrait avec un couteau de poche l'enveloppe des dépêches, Lord Nelson emmena le capitaine Vincent dehors sur la galerie arrière. « Et quoi ? » s'écria tout à coup Nelson, après avoir jeté un coup d'œil sur la corvette. « Vous avez cette tartane en remorque ? » Je pensais que votre honneur aimerait voir un bâtiment de 40 tonneaux qui a fait mener pareille chasse à la corvette la plus rapide, je crois, de la flotte de Sa Majesté. Comment tout cela a-t-il commencé ? Demanda l'amiral tout en continuant à regarder l'Amélia. Comme je viens de le dire à votre honneur, j'avais obtenu certains renseignements, reprit le capitaine Vincent, qui ne croyait pas utile de s'étendre sur cette partie de l'histoire. Cette tartane, qui n'est pas très différente d'aspect de celle que l'on peut voir le long de la côte entre Sète et Gênes, était partie d'une crique sur la presqu'île de Gien. Un vieux marin à tête blanche était chargé de la conduire, et, à vrai dire, on aurait difficilement pu trouver mieux. Il doublait le cap Estérel avec l'intention de traverser la rade d'Hyères. Apparemment, il ne s'attendait pas à trouver l'Amélia sur sa route. C'est là la seule erreur qu'il ait commise. S'il avait tenu sa route, je n'aurais probablement pas fait plus attention à lui qu'à deux ou trois autres bâtiments de son genre qui étaient alors en vue. Mais je lui trouvais une allure suspecte lorsqu'il alla se mettre à l'abri de la batterie de Porquerolles. Cette manœuvre et le renseignement dont j'ai parlé me décidèrent à lui courir après et à voir ce qu'il y avait à bord. Le capitaine Vincent raconta alors brièvement les épisodes de la poursuite. L'amiral, qui pendant tout ce temps n'avait cessé de regarder machinalement l'Amélia avec la tartane en remorque, lui dit « Vous avez là un bien joli petit navire, Vincent. Fait à souhait pour l'emploi que je vous ai confié. Construction française, n'est-ce pas ?»« Oui, amiral, les Français sont le grand constructeur de navires. » Vous n'avez pas l'air de détester les Français, Vincent, reprit l'amiral en souriant légèrement. Pas cela, amiral, fit le capitaine Vincent en s'inclinant. Je déteste leurs principes politiques et le caractère de leurs hommes politiques, mais votre honneur admettra que pour le courage et la résolution, nous ne pourrions trouver nulle part au monde de meilleurs adversaires. Je n'ai jamais dit qu'il fallait les mépriser, répondit Nelson. De l'ingéniosité, du courage, certes oui. Si cette escadre de Toulon m'échappe, toutes nos escadres de Gibraltar à Brest seront en danger. Pourquoi ne sortent-ils pas pour en finir ? Est-ce que je ne me tiens pas assez loin de leur route ? S'écria-t-il. Vincent, en remarquant la nervosité de ce corps frêle, éprouva un sentiment d'inquiétude qu'augmenta encore la quinte de tout dont fut pris l'amiral et dont la violence l'alarma. Il vit le commandant en chef de l'escadre de la Méditerranée suffoqué et haleté de si pénible façon qu'il lui fallut détourner les yeux de ce douloureux spectacle. Mais il fut frappé aussi de la rapidité avec laquelle Nelson reprit le dessus. « C'est une rude besogne, Vincent, dit-il. Cela me tue. J'aspire à me reposer quelque part à la campagne, loin de la mer, de l'amirauté, des dépêches et du commandement, et aussi de toute responsabilité. Je viens de terminer une lettre pour dire à Londres qu'il me reste à peine assez de souffle pour me traîner. Mais je suis comme cet homme à la tête blanche que vous admirez tant, Vincent, continua-t-il avec un sourire las. Je m'acharnerai à ma tâche jusqu'à ce que peut-être une balle ennemie vienne mettre fin à tout. Allons voir ce qu'il peut bien y avoir dans les papiers que vous avez apportés. » Le secrétaire, dans la cabine, les avait disposés en plusieurs piles. « De quoi s'agit-il ? » demanda l'amiral, en se remettant à arpenter nerveusement la cabine. À première vue, ce qu'il y a de plus important, amiral, ce sont des instructions pour les autorités maritimes en Corse et à Naples, en vue de dispositions à prendre pour une expédition en Égypte. « Je l'ai toujours pensé, » dit l'amiral, dont l'œil restait fixé sur le capitaine Vincent. « Vous avez fait du bon travail, Vincent. Je ne peux rien faire de mieux que de vous renvoyer à votre poste. Oui, l'Égypte, l'Orient, tout l'indique. » Continua-t-il en se parlant à lui-même, tandis que Vincent le regardait et que le secrétaire, ramassant avec soin les papiers, se levait tranquillement pour aller les faire traduire et en faire un résumé pour l'amiral. « Et pourtant, qui sait ? » s'écria Nelson, un moment immobile. « Mais le blâme ou la gloire seront pour moi seul, je ne prendrai conseil de personne. » 10 minutes après, le capitaine Vincent quittait le bord du Victory avec l'impression, commune à tous les officiers qui approchaient Nelson, de s'être entretenu avec un ami personnel. Il était plein d'un dévouement plus entier encore pour cette grande âme de marin, logée dans le corps frêle du commandant en chef de l'escadre royale de la Méditerranée. Tandis qu'il regagnait son navire, le Victory envoya une série de signaux enjoignant à l'escadre de prendre une formation en ligne, en avant et en arrière du vaisseau amiral. Ils furent suivis d'un autre signal qui donnait à l'Amélia liberté de manœuvre. Vincent s'empressa de faire mettre la voile, et après avoir dit au second de faire route sur le cap Sissier, il descendit dans sa cabine. Il était resté debout presque tout le temps pendant les 3 nuits précédentes, et il avait besoin d'un peu de sommeil. Son sommeil pourtant fut entrecoupé et assez agité. De bonne heure dans l'après-midi, il se retrouva tout éveillé et occupé à repasser dans son esprit les événements de la veille. Cet ordre qu'il avait donné à contre-cœur de tirer de sang-froid sur 3 braves lui pesait encore sur la conscience. Peut-être avait-il été impressionné par les cheveux blancs de Pérolle, par son obstination à lui échapper, par la résolution dont il avait fait preuve jusqu'à la dernière minute, par quelque chose dans tout l'épisode qui montrait un attachement plus qu'ordinaire à son devoir et un esprit de défi audacieux. Doué d'une robuste santé, d'un bon et simple naturel que tempérait une légère dose d'ironie, le capitaine Vincent était un homme aux sentiments généreux et d'une sympathie aisément accessible. Et pourtant, se disait-il, ils l'ont voulu. Cette affaire ne pouvait pas finir autrement. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils étaient sans défense et sans armes, particulièrement inoffensifs, et en même temps aussi braves que n'importe qui. Ce vieux, il se demandait ce qu'il y avait exactement de vrai dans le récit de Simons. Il en arriva à cette conclusion que les faits devaient être exacts, mais que leur interprétation par Simons rendait presque impossible de découvrir ce qu'il y avait véritablement là-dessous. Assurément, ce bâtiment était fait à merveille pour forcer un blocus. Lord Nelson s'était montré satisfait. Le capitaine Vincent monta sur le pont, tout animé de sentiments on ne peut plus bienveillants à l'égard de tous les hommes, vivants et morts. Le capitaine Vincent, l'esprit pénétré de son dessein, se sentait maintenant en paix avec lui-même. Comme il était d'un abord aisément accessible pour ses officiers, le premier lieutenant risqua une question à laquelle le capitaine Vincent répondit « Il a l'air bien amaigri et bien épuisé, mais je ne le crois pas aussi malade qu'il pense l'être. Je suis sûr que vous serez tous heureux de savoir que l'amiral est satisfait de ce que nous avons fait hier. Ses papiers étaient assez importants, et de l'Amélia en général. C'était une singulière poursuite, n'est-ce pas ? Reprit-il. Il est hors de doute que cette tartane voulait nous échapper. » Mais elle n'avait aucune chance contre l'Amélia. Pendant la dernière partie de ce discours, le premier lieutenant regarda vers l'arrière comme s'il se demandait combien de temps le capitaine Vincent avait l'intention de traîner cette tartane derrière l'Amélia. Au coucher du soleil, qui est le moment des funérailles à la mer, l'Amélia mit en panne et l'amarre ayant été halée, la tartane fut amenée au long du bord et ses 2 gardiens reçurent l'ordre de rentrer à bord de la corvette. Le capitaine Vincent, accoudé à la lisse, semblait perdu dans ses pensées. À la fin, le premier lieutenant demanda « Qu'allons-nous faire de cette tartane, commandant ? Nos hommes sont à bord. »« Nous allons la couler à coups de canon, » déclara soudain le capitaine Vincent. « Il n'y a pas pour un marin de meilleur cercueil que son navire, et ces gens-là méritent mieux que d'être envoyés par-dessus bord à rouler sur les vagues. Qu'ils reposent en paix au fond de la mer, à bord du bâtiment auquel ils sont restés si fermement fidèles. » Le lieutenant ne répondait rien, il attendait un ordre plus précis. Tout l'équipage avait les yeux tournés vers le capitaine. Mais le capitaine Vincent ne disait rien. Il semblait ne pas pouvoir ou ne pas vouloir donner un ordre. Il sentait vaguement qu'il manquait quelque chose à toutes ses bonnes intentions. « Ah, monsieur Bolt, » dit-il en apercevant l'officier de manœuvre sur le passe-avant, « y avait-il un pavillon à bord de cette tartane ? Je crois qu'elle avait un petit drapeau quand la chasse a commencé, commandant, mais il a dû partir au vent. Il n'y a plus rien à la grand-vergue. » Il regarda par-dessus bord. « La drisse est encore en place, » ajouta-t-il. « Nous avons bien un pavillon français quelque part à bord, » dit le capitaine Vincent. « Assurément, commandant, » déclara le second qui les écoutait. « Eh bien, monsieur Bolt, » dit le capitaine Vincent, « c'est vous qui avez eu la plus grande part à tout cela. Prenez quelques hommes avec vous, frappez-moi le pavillon français sur la drisse et hissez la grand-vergue en tête du mât. » Il adressa un sourire à tous les visages qui étaient tournés vers lui. « Après tout, messieurs, ils ne se sont pas rendus, et ma foi, ils s'en iront par le fond avec leur couleur. » Un silence profond, mais qui ne marquait aucune désapprobation, régna sur le pont du navire, tandis que M. Bolt, avec 3 ou 4 hommes, s'employait à exécuter l'ordre. et soudain, au-dessus du petit perroquet de l'Amélia, on vit passer le haut de la courbe d'une vergue latine, le drapeau tricolore déferlé à son extrémité. Un murmure de l'équipage subjugué salua cette apparition. En même temps, le capitaine Vincent donna ordre de larguer la remorque qui maintenait la tartane au long du bord et de brasser la grand-vergue de l'Amélia. La corvette, dépassant sa prise, la laissa immobile sur la mer, puis en reculant, elle revint à sa hauteur sur l'autre bord. La pièce bâbord avant tira un coup en visant assez en avant. Ce coup porta juste trop haut, emportant le mât de misaine de la tartane. Le suivant fut plus heureux et, frappant la petite coque en plein bois au-dessus de la ligne de flottaison, pour s'enfoncer profondément sous l'eau de l'autre côté. On en tira un troisième, comme disait l'équipage, au petit bonheur. Et celui-là aussi ne manqua pas le but. L'éclatement d'un trou apparut à l'avant. Après quoi on amarra les pièces et l'Amélia, sans brasser ses vergues, fit route vers le cap Sissier. Tout l'équipage, le dos tourné au soleil couchant, qui brillait comme une pâle topaze au-dessus du bleu cru de la mer, vit la tartane pencher soudain, puis plonger lentement sans à-coup. Pendant un moment, qui parut interminable, le pavillon tricolore resta seul visible, pathétique et solitaire, au centre d'un horizon désert. Tout d'un coup, il disparut, comme une flamme que l'on souffle, laissant aux spectateurs la sensation de demeurer seul face à face avec une immense, une nouvelle solitude. Sur le pont de l'Amélia courut un murmure confus. Lorsque le lieutenant Réal partit avec l'escadre de Toulon pour cette grande expédition qui devait se terminer par la bataille de Trafalgar, Madame Réal retourna habiter avec sa tante la demeure familiale d'Escampobar. Elle n'avait passé que quelques semaines en ville, où on ne l'avait guère vue en public. Le lieutenant et sa femme habitaient une petite maison près de la porte ouest, et bien que le lieutenant fît partie de l'état-major jusqu'au dernier moment, sa situation officielle n'était pas suffisamment en vue pour qu'on remarquât l'absence de sa femme aux cérémonies officielles. Mais ce mariage éveilla un intérêt des plus sympathiques dans les cercles navals. Ceux, surtout des hommes, qui avaient vu Madame Réal chez elle, ne tarissaient pas d'éloges sur son teint éblouissant, ses magnifiques yeux noirs, sa personnalité étrange et attrayante, et sur le costume arlésien qu'elle persistait à porter, même après avoir épousé un officier de marine. On disait que son père et sa mère avaient compté parmi les victimes des massacres qui avaient eu lieu à Toulon après l'évacuation de la ville. Mais tous ces récits différaient dans les détails et étaient en somme assez vagues. Partout où elle allait, Madame Réal était escortée de sa tante qui éveillait presque autant de curiosité qu'elle. Une magnifique vieille femme très droite, dont le visage brun et ridé, à l'expression austère, portait les signes d'une ancienne beauté. On voyait aussi Catherine seule dans les rues, où, à vrai dire, les gens se retournaient sur cette silhouette mince et digne, remarquable au milieu des passants que, de son côté, elle ne paraissait pas voir. On racontait d'étonnantes histoires sur la façon dont elle avait échappé au massacre et elle acquit la réputation d'une héroïne. La tante d'Arlette, on le savait, fréquentait les églises qui étaient maintenant ouvertes aux fidèles et elle conservait, jusque dans la demeure de Dieu, un aspect sibyllin de prophétesse et son attitude austère. Ce n'était pas au service qu'on la voyait le plus souvent. C'était généralement dans quelque église déserte, svelte et droite comme une flèche, à l'ombre d'un pilier, comme si elle venait rendre visite au Créateur, avec lequel elle avait fait généreusement la paix, et dont elle implorait seulement le pardon et la réconciliation pour sa nièce Arlette. Car Catherine resta longtemps inquiète de l'avenir. Elle ne pouvait se débarrasser de la terreur involontaire que lui inspirait sa nièce, en qui elle vit jusque vers la fin de sa vie un objet d'élection de la colère divine. Il y avait aussi une autre âme dont elle était en peine. De divers points des îles qui ferment la rade Thiers et du fort de la Vigie, on avait suivi la poursuite de la tartane par l'Amélia. On avait vu le navire anglais ouvrir le feu sur l'objet de sa chasse. Le résultat, bien que les deux bâtiments eussent été bientôt hors de vue, ne pouvait faire aucun doute. Un petit cotier qui rentra à Fréjus raconta aussi l'histoire d'une tartane canonnée par un navire de guerre. Mais cela s'était apparemment passé le lendemain. Tous ces bruits coïncidaient et formèrent la base du rapport fait par le lieutenant Réal à l'amirauté de Toulon. Que Pérol avait pris la mer à bord de sa tartane et n'était pas revenu, c'était là un fait indéniable. La veille du jour où les deux femmes devaient retourner à Escampobar, Catherine aborda un prêtre dans l'église de Sainte-Marie-Majeure, un petit homme rond et mal rasé, pour lui demander de faire dire des messes pour le mort. « Mais pour l'âme de qui doit-on prier ?» susurra le prêtre. « Priez pour l'âme de Jean, » dit Catherine. « Oui, Jean, il n'y a pas d'autre nom. » Le lieutenant Réal, blessé à Trafalgar, mais ayant réussi à n'être pas fait prisonnier, se retira avec le grade de capitaine de frégate et disparut aux yeux du monde naval de Toulon et même du monde tout court. Le signe, quel qu'il fût, qu'il avait ramené à Escampobar cette nuit capitale, ne devait pas le conduire à la mort, mais à une vie paisible et retirée, obscure à certains égards, mais non pas dénuée de dignité. Quelques années plus tard, Réal fut nommé maire par les gens de ce même petit village qui avait si longtemps considéré Escampobar comme un foyer d'iniquité, un repère de buveurs de sang et de femmes perverties. Un des premiers événements qui vinrent rompre la monotonie de la vie d'Escampobar fut la découverte d'un objet singulier au fond du puits, une année de sécheresse où l'eau faillit manquer. Après avoir eu beaucoup de mal à l'en retirer, on s'aperçut que c'était un vêtement fait de toile à voile, garni de bretelles et de 3 boutons de corne, et qui avait l'air d'un gilet. Mais il était doublé, positivement piqué, d'une quantité surprenante de pièces d'or, d'âge, de valeur et de nationalité différentes. Nul autre que Pérol ne pouvait l'avoir jeté là. Catherine put donner la date exacte du jour où la chose avait été faite, car elle se rappela avoir vu Pérol occupé au puits le matin même du jour où il était allé à la mer avec Michel en emmenant ses volas. Le capitaine Réal devina aisément l'origine de ce trésor, et il décida, avec l'approbation de sa femme, d'en faire remise au gouvernement comme étant la propriété d'un homme mort intestat, s'emparant d'aucune sorte et dont le nom était resté incertain même pour lui. Après cet événement, ce nom incertain de Pérol revint de plus en plus souvent sur les lèvres de M. et Mme Réal, qu'il ne l'avait jusqu'alors prononcé que rarement. Bien que le souvenir de sa tête blanche, de sa placide et irrésistible personnalité continua à hanter le moindre coin des champs d'Escampobar. À partir de ce moment, ils parlèrent ouvertement de lui, comme si, de nouveau, il était revenu habiter avec eux. Bien des années plus tard, par une belle soirée, M. et Mme Réal, assis sur le banc devant le mur de la salle, la maison n'avait subi extérieurement aucun changement, si ce n'est qu'elle était maintenant blanchie à la chaux, parlaient de cet épisode et de l'homme qui, venu de la mer, avait traversé leur vie pour disparaître également à la mer. « Comment a-t-il pu posséder tout cet or ?» demanda innocemment Mme Réal. « Il n'en avait véritablement pas besoin. Et pourquoi, Eugène, l'avoir jeté là ?»« Il n'est pas facile, ma chère amie, » dit Réal, « de répondre à cette question. Les hommes et les femmes ne sont pas si simples qu'ils en ont l'air. Même vous, fermière, » il donnait parfois ce nom à sa femme par manière de plaisanterie, vous n'êtes pas si simple que bien des gens pourraient le croire. Je pense que si Pérol était ici, il ne pourrait peut-être pas vous répondre lui-même. » Et il continuait, dans de courtes phrases entrecoupées de longs silences, à rappeler les particularités de sa personne et de son allure, lorsque, au haut de la montée qui venait de Madrague, apparurent d'abord les oreilles pointues, puis tout le corps d'un âne minuscule à la robe d'un gris clair. De chaque côté de son corps, jusqu'en avant de sa tête, s'allongeaient 2 morceaux de bois de forme étrange qui avaient l'air de très longs brancards d'une charrette, mais l'âne ne traînait aucune charrette derrière lui. Il portait sur son dos, sur un petit bas, le torse d'un homme qui semblait n'avoir pas de jambes. Le petit animal bien soigné, et qui avait une intelligente et même impudente physionomie, s'arrêta devant M. et Mme Réal. L'homme, qui se balançait sur le bas, ses jambes rabougries croisées devant lui, se laissa glisser à terre, retira ses béquilles placées de chaque côté de l'âne, s'appuya dessus et, de sa main ouverte, donna à l'animal une tape vigoureuse qui le fait partir entre-temps vers la cour. L'estropié de Madrague, en sa qualité d'ami de Pérol, car l'écumeur de mer avait souvent fait son éloge devant les femmes et le lieutenant Réal, « C'est un homme, ça !» faisait partie de la maison d'Escampobar. Son emploi consistait à parcourir le pays pour faire les courses, emploi peu fait en apparence pour un homme dépourvu de jambes. Mais l'âne se chargeait de la marche, tandis que l'infirme apportait de son côté sa vivacité d'esprit et son infaillible mémoire. Le pauvre diable, ayant enlevé son chapeau qu'il tenait d'une main au long de sa béquille de droite, s'avança pour rendre compte de l'emploi de sa journée. « J'ai fait toutes les commissions, madame. » Et il demeurait là, serviteur privilégié, familier mais respectueux, sympathique avec ses bons yeux, sa longue figure et son sourire douloureux. « Nous parlions justement de Pérol, » déclara le capitaine Réal. Il m'a dit une fois que si j'avais été complet, je suppose qu'il voulait dire avec des jambes, comme tout le monde, j'aurais fait un bon camarade à la mer. C'était un grand cœur. « Oui, » murmura Madame Réal d'un air pensif, puis se tournant vers son mari, elle demanda « Quelle sorte d'homme était-ce réellement, Eugène ?» Le capitaine Réal restait silencieux. « Vous êtes-vous jamais posé cette question ? » insista-t-elle. « Oui, » dit Réal, « mais la seule chose certaine que l'on puisse dire de lui, c'est que ce n'était pas un mauvais Français. »« Tout est là, » murmura l'infirme, avec une ardente conviction, dans le silence qui tomba sur les paroles de Réal et sur le léger soupir d'Arlette. La surface bleue de cette Méditerranée qui enchanta et déçut tant d'hommes audacieux gardait le secret de son sortilège. Embrassait dans son sein paisible les victimes de toutes les guerres, de toutes les calamités et de toutes les tempêtes de son histoire, sous la merveilleuse pureté du ciel au soleil couchant. Quelques nuages roses flottaient au-dessus de la ligne de l'Estérel. Le souffle de la brise du soir commençait à rafraîchir les rochers brûlants d'Escampobar. Et le mûrier, seul grand arbre au sommet de la presqu'île, dressé comme une sentinelle à la porte de la cour, soupirait doucement de toutes ses feuilles frémissantes, comme s'il regrettait le frère de la côte, l'homme aux sombres exploits, mais au grand cœur, qui, souvent à midi, venait s'étendre là pour dormir à son ombre.